Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Chapitre 13. Journal du docteur Seward. Suite. J'avais dû dormir longtemps et profondément, car il faisait grand jour quand Van Helsing m'éveilla en entrant dans ma chambre. Il s'approcha de mon lit et me dit aussitôt « Inutile de m'apporter les instruments pour autopsie. Je renonce à l'affaire. Pourquoi » « Pourquoi ? » demandai-je, encore tout impressionné par ce qu'il m'avait dit la veille et fort étonné de ce soudain revirement. « Parce que, » fit-il, sur ce ton grave que les événements des derniers jours avaient rendu habituel chez lui, « parce qu'il est trop tard, ou trop tôt. Regardez. » Il me montra la petite croix d'or. « On l'a volée pendant la nuit. » « Comment cela, voler, puisque vous l'avez ?»« Je l'ai reprise à la malheureuse créature qui l'avait volée, à une femme qui dépouille les morts et les vivants. Certes, son châtiment viendra, mais je n'y serai pour rien. Elle ignore ce qu'elle a fait au juste, et l'ignorant, elle est donc seulement coupable d'un vol. » Là-dessus, il sortit, me laissant seul. L'eussé-je voulu, cela aurait été vain, je le savais, que j'aurais cherché à éclaircir ce nouveau mystère. La matinée fut évidemment lugubre et me parut longue. Vers midi, pourtant, le notaire arriva, M. Marquand, de l'étude Wallman, Sons, Marquand et Liddell. C'était un homme fort aimable qui nous remercia pour tout ce que nous avions déjà fait. Il se chargea de toutes les dernières formalités et jusqu'au moindre détail. Durant le lunch, il nous répéta que Madame Westenra, avant de mourir, avait mis toutes ses affaires en ordre, et il nous apprit que, à l'exception d'une propriété du père de Lucie, et qui maintenant, à défaut de descendance directe, retournait à une branche lointaine de la famille, tous les biens, immobiliers et autres, étaient laissés à Arthur Holmwood. Lorsqu'il nous eut expliqué cela, il poursuivit. À dire vrai, nous avons essayé d'empêcher de telles dispositions testamentaires. Nous avons, entre autres choses, fait remarquer à Madame Westenra que certains événements imprévus pourraient laisser sa fille sans un sou vaillant ou l'empêcher d'agir en toute liberté le jour où elle envisagerait de se marier. Les choses entre elle et nous faillirent se gâter à tel point qu'elle nous demanda finalement si, oui ou non, nous voulions veiller à l'exécution de ses dernières volontés. Naturellement, n'ayant pas le choix, nous acceptâmes. Mais en principe, nous avions raison, et 99 fois sur 100, par la suite logique des événements, nous aurions pu le prouver. Je dois admettre toutefois que, dans ce cas particulier, toute autre forme testamentaire eût rendu impossible l'exécution de ses volontés. Car, puisqu'elle devait mourir avant sa fille, cette dernière héritait de tous les biens, et n'aurait-elle survécu à sa mère que 5 minutes seulement, et à supposer qu'il n'y ait pas eu de testament, en vérité, l'existence d'un testament était pratiquement impossible dans un cas comme celui-ci. On l'aurait considérée comme morte intesta. De la sorte, Lord Godalming, bien qu'il fût un ami si cher et fiancé de la jeune fille, n'aurait eu absolument droit à rien. Vraisemblablement, les héritiers, même lointains, n'auraient pas abandonné à un étranger, pour des raisons sentimentales, ce qui leur revenait légalement. Croyez-moi, messieurs, je me réjouis de ce résultat. Je m'en réjouis vraiment. C'était sans nul doute un excellent garçon, mais qu'il se réjouit de ces détails, auxquels l'intéressait sa profession, alors que le malheur qui arrivait tenait de la tragédie, voilà qui était un exemple du peu de sympathie et de compréhension que l'on rencontre chez certains hommes. Il ne resta pas longtemps avec nous, mais il nous dit qu'il reviendrait en fin d'après-midi pour rencontrer Lord Godalming. Sa visite, malgré tout, nous avait quelque peu réconfortés, puisqu'il nous assura que, quant à nous, nous n'avions à craindre aucun blâme au sujet de nos démarches depuis la mort de Madame Westenra et de celle de Mademoiselle Lucie. Nous attendions Arthur à 5 heures. Un peu avant, nous nous rendîmes dans la chambre de la mort. C'était bien ainsi qu'on pouvait l'appeler, car maintenant la mère et la fille y reposaient toutes deux. L'entrepreneur des pompes funèbres s'était surpassé. Le spectacle par trop lugubre de la pièce nous plongea dans un abattement que nous sentîmes insurmontable. Van Helsing exigea aussitôt que l'on remît les choses telles qu'elles étaient auparavant. Lord Godalming, précisa-t-il, allait arriver, et ce serait sans doute moins déchirant pour lui, si toutefois cela était possible, de ne voir ici que sa fiancée. L'entrepreneur des pompes funèbres feignit d'être scandalisé de sa propre stupidité, et il fit ce qu'on lui demandait. Quand Arthur arriva, la chambre était comme nous l'avions laissée la veille, avant d'aller nous coucher. Pauvre garçon. Dans son désespoir, et après tant d'émotions plus douloureuses les unes que les autres, il ne semblait plus être le même homme. Je savais qu'il aimait profondément son père. Le perdre, et à ce moment, était pour lui un coup terrible. Il me témoigna autant d'amitié que de coutume, et il se montra poli et même fort aimable envers Van Helsing. Mais il me parut un peu embarrassé. Le professeur, ayant sans doute la même impression, me fit signe de monter avec lui. Je voulus le quitter à la porte de la chambre, pensant qu'il préférerait être seul avec Lucie, mais il prit mon bras et nous entrâmes tous les deux en même temps. « Vous aussi, mon ami, vous l'aimiez ?» me dit-il, d'une voix étranglée. Elle m'avait tout raconté, et aucun de ses amis ne lui était plus cher que vous. Comment pourrais-je vous remercier de tout ce que vous avez fait pour elle ? Maintenant encore, il m'est impossible de... » Il éclata en sanglots, jeta les bras autour de mes épaules et la tête sur ma poitrine. « Oh, Jack, Jack, que vais-je devenir ? Il me semble que j'ai tout perdu, que je n'ai plus au monde aucune raison de vivre. » Je le consolai de mon mieux. Les paroles, en de telles circonstances, sont inutiles. Une poignée de main, ou une main fortement appuyée sur l'épaule de l'ami dans l'affliction, ou encore un sanglot se mêlant au sien, ce sont là des expressions de sympathie que le cœur reconnaît tout de suite. J'attendis que ses sanglots se fussent apaisés, puis je lui dis tout bas et doucement « Allons, venez la voir. » Nous nous approchâmes du lit et soulevâmes légèrement le drap du visage. Dieu, qu'elle était belle! Chaque heure qui passait semblait la rendre plus jolie. Non seulement cela m'étonnait, mais m'effrayait quelque peu. Quant à Arthur, je vis que le doute, l'angoisse le secouaient, et il se mit à trembler comme s'il avait été pris de fièvre. Finalement, après être resté longtemps sans rien dire, il me murmura à l'oreille « Jack, est-elle vraiment morte ?» Il me fallut bien lui affirmer qu'il en était malheureusement ainsi, car je savais que le doute où il était, de toute façon, ne durerait qu'un moment, et je lui expliquais que souvent, après la mort, les traits du visage reprennent une expression à la fois douce et reposée, qui rappelle celle de la jeunesse. Et cela d'autant plus lorsque de longues souffrances ont précédé la mort. Mes paroles parurent le convaincre, et après s'être agenouillé un moment près du lit et avoir longuement contemplé la jeune fille avec amour, il se détourna. Je l'avertis encore que c'était le moment de lui dire adieu pour toujours, car on allait la mettre dans le cercueil. De sorte qu'il alla lui reprendre sa pauvre petite main, la porta à ses lèvres, puis se pencha pour lui baiser le front. Il se décida enfin à quitter la chambre, mais en regardant encore la chère défunte jusqu'à ce qu'il eût franchi la porte. Je le laissai dans le salon pour aller rejoindre Van Helsing. Celui-ci donna alors ordre aux employés de l'entrepreneur des pompes funèbres de monter le cercueil et de procéder à la mise en bière. Pendant ce temps, je répétais au professeur la question qu'Arthur m'avait faite. « Cela ne m'étonne nullement, me dit-il. Moi-même, un moment, j'ai eu un doute. » Au dîner, je remarquai que le pauvre Arthur s'efforçait de cacher sa douleur du mieux qu'il pouvait. Van Helsing, lui, était resté silencieux pendant tout le repas. Mais lorsque nous eûmes allumé nos cigares, il s'adressa à Arthur. « Lord, non, non, pas de cela, pour l'amour de Dieu, » fit l'autre en l'interrompant. « Pas encore, en tout cas. Pardonnez-moi, monsieur, je n'avais évidemment pas l'intention de vous blesser, croyez-moi. Mais comprenez-moi, mon deuil est si récent. » Le professeur répondit sur un ton très doux. « Je vous donnais seulement ce titre parce que je ne savais comment vous appeler. Je n'aime pas vous appeler monsieur parce que j'ai maintenant beaucoup, beaucoup d'affection pour vous, mon garçon. Pour moi aussi, vous êtes Arthur. » Arthur tendit cordialement la main au vieux docteur. « Donnez-moi le nom que vous voulez, dit-il, mais j'espère que vous me considérez toujours comme un ami. Et laissez-moi vous le dire, j'ai beau chercher, je ne trouve pas les mots qui pourraient exprimer ma reconnaissance envers vous. Quelle bonté fut la vôtre pour ma pauvre chérie !» Il se tut un instant, puis reprit. « Je sais que cette bonté, elle la comprenait encore mieux que moi. Et si je ne me suis pas conduit comme j'aurais dû le faire à ce moment-là, vous vous souvenez ?» Le professeur fit de la tête un signe affirmatif. « Je vous prie de me pardonner. » La réponse de Van Helsing témoigna à nouveau d'une véritable sympathie. « Je sais, fit-il lentement et avec calme, qu'il était très difficile pour vous de m'accorder une entière confiance, car pour accorder sa confiance devant un geste aussi violent que celui que j'ai eu alors, il faut d'abord comprendre. Et je suppose que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas encore avoir confiance en moi, car vous ne comprenez pas encore. Pourtant, il y aura encore bien des circonstances où j'aurai besoin de votre confiance, alors que vous ne comprendrez pas, que vous ne pourrez pas, que vous ne devrez pas encore comprendre. Toutefois, le temps viendra où cette confiance que vous me donnerez sera entière et complète, et vous comprendrez les choses comme si le soleil lui-même les illuminait. Alors, vous me bénirez d'avoir agi comme je l'ai fait pour votre bien, pour le bien des autres, et pour le bien de la pauvre enfant que j'ai juré de protéger. « mais oui, » répliqua Arthur, « je me fierai complètement à vous. Je sais que vous avez un cœur généreux, et vous êtes l'ami de Jack, comme vous étiez pour elle un ami. Vous agirez ainsi que vous croyez devoir le faire. » Après s'être éclairci la voix à deux reprises, comme si chaque fois il avait été sur le point de parler, le professeur reprit finalement. « Puis-je vous poser une question ?»«
Certainement. »
Vous savez que Madame Westenra vous a laissé tout ce qu'elle possédait.
Non, la pauvre chère dame, non, je ne m'en serais jamais douté.
Et puisque maintenant tous ces biens vous appartiennent, vous avez le droit d'en disposer comme il vous plaît. Je vous demande la permission de pouvoir lire tous les papiers, toutes les lettres de Mademoiselle Lucie. Croyez-moi, ce n'est pas par curiosité. J'ai pour cela une raison que, j'en suis sûre, elle eût approuvée. J'ai trouvé ces papiers et ces lettres. Je les ai pris, avant de savoir que désormais ils vous appartenaient, comme tout le reste, afin qu'aucune main étrangère ne pût s'en emparer, afin qu'aucun œil étranger ne pût, à travers les mots, pénétrer ses pensées. Je les garderai si vous m'y autorisez. Si vous-même ne les voyez pas maintenant, ce qui est peut-être préférable, je les garderai en lieu sûr. Rien de ce qu'elle a écrit ne sera perdu. Puis, quand le moment sera venu, je vous rendrai papiers et lettres. Sans doute est-ce beaucoup vous demander, mais vous consentirez, n'est-ce pas, par amour pour Lucie ? Arthur répondit avec une franchise, une sincérité où je le retrouvais. « Docteur Van Helsing, vous ferez en tout comme vous l'entendez. Je sais que, si elle était ici,
Ma pauvre Lucie approuverait mes paroles. Je ne vous poserai aucune question jusqu'à ce que vous jugiez bon de vous expliquer.
Vous avez raison, dit gravement le vieux professeur en se levant. Nous aurons tous beaucoup à faire, et nous aurons beaucoup de soucis.
Mais il n'y aura pas que des soucis. Encore qu'après cela, nous devions nous attendre à en connaître d'autres.
Le docteur Seward et moi, et vous aussi, mon ami, vous plus que quiconque,
oui, tous trois, nous traverserons bien des heures amères avant d'atteindre la quiétude.
Il nous faudra être très courageux, ne jamais penser à nous-mêmes, et faire notre devoir. Ainsi, tout ira bien.
Cette nuit-là, je dormis sur un sofa dans la chambre d'Arthur. Van Helsing, lui, ne se coucha pas du tout. Il allait et venait, comme s'il patrouillait dans la maison, mais il ne s'éloigna jamais de la chambre où Lucie gisait dans son cercueil, que l'on avait tout parsemé de fleurs d'ail, lesquelles, contrastant avec le parfum des lys et des roses, répandaient dans la nuit une forte odeur accablante. Journal de Mina Harker, 22 septembre. J'écris dans le train qui nous ramène à Exeter. Jonathan dort. Il me semble que c'est hier que j'ai écrit les dernières lignes de ce journal, et pourtant, combien de choses se sont passées depuis lors, depuis qu'à Whitby, nous faisions des projets d'avenir, alors que Jonathan était au loin et que j'étais sans nouvelles de lui. Et maintenant, me voilà mariée à Jonathan, qui est sollicitor, maître de sa propre étude. Monsieur Hawkins est mort et enterré, et Jonathan vient d'être victime d'une nouvelle crise qui, j'en ai peur, peut avoir de fâcheuses conséquences. Un jour, peut-être me questionnera-t-il à ce sujet. Je m'aperçois que j'ai la main un peu rouillée pour la sténographie, à quoi mène une fortune inattendue, de sorte qu'il serait peut-être souhaitable de m'y exercer à nouveau de temps en temps. Le service a été très simple, très émouvant. Il n'y avait que nous et les domestiques, deux ou trois de ses vieux amis d'Exeter, son agent londonien, et un autre monsieur qui représentait Sir John Paxton, le président de l'Incorporated Law Society. Jonathan et moi, nous nous tenions la main dans la main, et nous sentions que notre ami le meilleur, notre ami le plus cher, nous quittait à jamais. Pour revenir en ville, nous avons pris un bus qui nous a déposés à Hyde Park Corner. Jonathan, pensant me faire plaisir, me proposa d'entrer dans la grande allée du parc. Nous allâmes donc nous y asseoir. Mais il n'y avait que très peu de monde, et toutes ces chaises vides, c'était un spectacle bien triste, qui nous fit penser à la chaise vide que nous trouverions en rentrant chez nous. Aussi, nous restâmes pas là, et nous nous dirigeâmes vers Piccadilly. Jonathan avait pris mon bras, comme il le faisait toujours autrefois pour me conduire jusqu'à l'école. À vrai dire, cela ne me paraissait pas très convenable, car on n'enseigne pas, pendant des années, le savoir-vivre à des jeunes demoiselles sans en être soi-même quelque peu marqué. Mais maintenant, Jonathan était mon mari. Nous ne connaissions aucune personne que nous croisions, et peu nous importait si l'une ou l'autre d'entre elles nous reconnaissait. Nous marchions, allant droit devant nous. J'eus l'attention attirée par une très belle jeune fille, coiffée d'un immense chapeau et assise dans une victoria qui était arrêtée devant la maison Giuliano. Au même instant, la main de Jonathan me serra le bras au point que j'en eus mal, et je l'entendis me murmurer à l'oreille, presque en retenant sa respiration, « Mon Dieu !» Il ne se passe pas de jour que je ne sois inquiète au sujet de Jonathan, car j'ai toujours peur qu'une nouvelle crise nerveuse ne l'ébranle. De sorte que je me tournais vivement vers lui et lui demandais ce qui se passait. Je le vis très pâle, ses yeux exorbités et brillants à la fois, de frayeur et d'étonnement, semblait-il, restaient fixés sur un homme grand et mince, au nez aquilin, à la moustache noire et à la barbe pointue, qui, lui aussi, regardait la ravissante jeune fille. Il la regardait même si attentivement qu'il ne nous remarqua ni l'un ni l'autre, de sorte que je pus l'observer tout à mon aise. Son visage n'annonçait rien de bon. Il était dur, cruel, sensuel, et les énormes dents blanches, qui paraissaient d'autant plus blanches entre les lèvres couleur rubis, étaient pointues comme les dents d'un animal. Jonathan continua longtemps à le fixer des yeux, et je finis par craindre que l'homme ne s'en aperçût et ne s'en formalisât. Vraiment, il avait l'air redoutable. Quand je demandai à Jonathan la cause de son trouble, il me répondit, croyant évidemment que j'en savais aussi long que lui, « L'as-tu reconnu ?»« Mais non, je ne le connais pas. Qui est-ce » Sa réponse fut pour moi un véritable choc, car au ton sur lequel il la fit, on eût dit qu'il ne savait plus que c'était moi, Mina, qui parlait. « Mais c'est lui, c'est cet homme !» Le pauvre chéri était évidemment terrifié par quelque chose, extraordinairement terrifié. Je crois que si je n'avais pas été près de lui, que s'il n'avait pas pu s'appuyer sur moi, il serait tombé. Il regardait toujours celui qui, pour moi, était un inconnu. Un homme sortit alors du magasin, tenant à la main un petit paquet qu'il donna à la demoiselle. L'autre ne la quittait pas des yeux, et quand la voiture démarra pour remonter Piccadilly, il suivit la même direction et appela un cabriolet. Jonathan le suivit encore des yeux un moment, puis il dit, comme s'adressant à lui-même, « Oui, je crois bien que c'est le comte. Mais il a rajeuni. Mon Dieu, si c'est lui, oh mon Dieu, si au moins je savais, si au moins je savais. » Il se tourmentait à tel point que je me gardais bien de lui poser la moindre question, de peur d'entretenir chez lui ses pensées qui le torturaient. Je restais donc silencieuse. Je le tirais doucement, et comme il me tenait le bras, il se laissa entraîner. Nous reprîmes notre promenade et nous entrâmes dans Green Park, où nous nous assîmes un moment. Cette journée d'automne était chaude et nous choisîmes pour nous reposer un banc sous un bouquet d'arbres. Jonathan regarda quelques minutes dans le vide, puis ferma les yeux et s'endormit tranquillement, la tête sur mon épaule. J'en étais ravie, me disant que rien ne pourrait lui faire plus de bien. Au bout de 20 minutes, il s'éveilla et me dit sur un ton très gai « Mina, je m'étais endormie. Oh, pardonne-moi. Viens, nous irons prendre une tasse de thé quelque part. » Je m'en rendais compte, il avait tout oublié de la rencontre que nous venions de faire. De même que pendant la maladie, il avait oublié tout ce que cet incident venait de lui rappeler. Qu'il recommençât ainsi à oublier certaines choses ne me plaisait pas. Ses facultés mentales pourraient en souffrir de nouveau, ou plutôt en souffrir davantage. Mais encore une fois, je ne pouvais pas lui poser de questions. C'eût été lui faire plus de mal que de bien. Je dois pourtant connaître la vérité sur son voyage à l'étranger. Le temps est venu, je le crains, où il me faut délier le petit ruban bleu et lire ce qui est écrit dans le calepin. Oh, Jonathan, tu me pardonneras, je le sais, et si je le fais, c'est pour ton bien. Un peu plus tard. Triste retour à la maison, pour plus d'une raison. La chère âme qui avait été si bonne n'était plus là. Jonathan avait la pâleur d'un malade après cette légère rechute. De plus, un télégramme d'un certain Van Helsing nous attendait. J'ai le regret de vous annoncer la mort de Madame Westenra, survenue il y a 5 jours, et celle de sa fille, Lucie, avant-hier. Toutes deux ont été enterrées aujourd'hui. Oh, comme quelques mots seulement peuvent signifier tant de choses tristes. Pauvre Madame Westenra, pauvre Lucie, partie, partie pour toujours, et pauvre, pauvre Arthur, dont la vie est désormais privée d'une si douce présence. Dieu nous aide tous à supporter notre chagrin.